Radio Kapi. Blaise Shindani Kambala à la présentation, mais d'abord les titres de ce journal. La situation sécuritaire et humanitaire alarmante qui se passe dans l'est de la RDC, au centre du rapport des experts de l'ONU, au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur lettre datant du 30 décembre 2025 atteste que l'AFC M23 a cherché à se positionner comme une autorité de gouvernance de substitution à l'État congolais dans la partie sous son contrôle. Au sud Kivu, l'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Shabunda est devenu un véritable défi. Et pour cause, l'inaccessibilité routière aggravée par l'insécurité persistante sur l'axe Bukavu-Shabunda. Les détails dans quelques instants. Un mois après l'entérinement à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda par les deux présidents, les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au nord Kivu et au sud Kivu. Comment expliquer cette persistance des combats? Que faut-il également retenir des récentes interpellations visant certains opposants? Pour en parler, nous recevons Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio de la paix. Le groupe d'experts des Nations Unies a adressé au président du Conseil de sécurité un rapport sur la République démocratique du Congo. Dans ce rapport, l'accent a été mis sur la situation sécuritaire et humanitaire alarmante qui se passe dans l'est de la RDC. La lettre des experts datant du 30 décembre 2025 atteste que l'AFC M23 a cherché à se positionner comme une autorité de gouvernance des substitutions à l'État congolais dans la partie sous son contrôle. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
Dans ces rapports, le groupe des experts prouve que l'AFC M23 a établi dans les territoires sous leur contrôle des structures administratives, judiciaires, budgétaires, sécuritaires et y assument les fonctions essentielles de l'État. Les rapports montrent que dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, malgré les avancées réalisées quant aux efforts de médiation, la situation en matière de sécurité s'est détériorée et a été marquée par de violents affrontements armés. La situation humanitaire a empiré et les attaques généralisées et systématiques contre les civils, ainsi que les violences sexuelles liées au conflit se sont multipliées de façon alarmante. C'est comme ça que selon la même source, l'AFC M23 a étendu sa campagne militaire dans le Nord Kivu et le Sud Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise, ce qui permet à l'AFC M23 de renforcer son accès aux ressources minières du Sud Kivu où elle contrôle désormais près de la moitié de la production de cassitérite et de coltan et plus de deux tiers de la production de la wolframite. Par ailleurs, les experts affirment que le gouvernement de la République démocratique du Congo a continué à compter sur les Wazalendo comme force supplétive pour repousser les avancées de l'AFC M23 soutenue par la force de défense rwandaise et reprendre les zones stratégiques clés.
Dans le même registre, 6 mois après la signature de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre demeurent fragiles, inégaux et marqués par un essoufflement. C'est ce qu'indique le dernier rapport du baromètre des accords de paix en Afrique sur la période allant du 1er au 31 décembre 2025. Cette structure est une plateforme indépendante chargée du suivi, de l'évaluation et de la promotion de l'application effective des accords de paix sur le continent, en commençant par celui de Washington. Alain Irung revient sur quelques recommandations contenue dans ce rapport.
Face au blocage relevé dans la mise en œuvre de l'accord de Washington, le baromètre des accords de paix en Afrique formule plusieurs recommandations à l'intention des différentes parties prenantes. Pour le gouvernement de la RDC, accélérer la mise en œuvre d'opérations coordonnées visant à neutraliser les FDLR tout en garantissant une protection stricte des civils dans toutes les zones concernées. Envisager l'implication officielle de la MONUSCO dans les efforts de neutralisation des FDLR, notamment dans les zones où ces éléments sont présents mais actuellement sous contrôle de l'AFC M23. Pour le gouvernement du Rwanda, mettre en œuvre sans délai le plan harmonisé de désengagement et de levée des mesures défensive, assorti d'objectifs mesurables et d'un mécanisme conjoint de vérification, fournir des garanties sécuritaires et ou judiciaires aux membres des FDLR encore présents en RDC, mais hésitant à se rendre afin de faciliter leur rapatriement volontaire. Aux États-Unis, le baromètre des accords de paix en Afrique recommande de continuer d'exercer une pression diplomatique sur les deux parties afin qu'elles respectent les délais convenus concernant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives rwandaises sur le territoire congolais.
Par ailleurs, comment organiser les opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et l'armée ougandaise, UPDF, dans le nord de l'Ituri? La question a été au centre d'une rencontre tenue ce mercredi à Mahagi entre les autorités politico-militaires congolaises et des hauts responsables de l'armée ougandaise. Selon des sources sécuritaires, les deux parties ont examiné la possibilité de mener des opérations coordonnées contre les groupes armés qui refusent d'adhérer au processus de paix. Martial Kizabiamongo.
C'est le centre d'accueil Caritas de Mahagi qui a accueilli cette rencontre officielle entre les représentants de la République démocratique du Congo et les officiers de UPDF. La partie congolaise a été représentée par les commandants du secteur opérationnel des FARDC à l'Ituri, le directeur provincial de l'ANR, l'administrateur du territoire de Mahagi et plusieurs autres officiers du côté ougandais, des hauts gradés actifs dans les opérations et les renseignements venus de Nebi et Kampala ont pris part à cette rencontre stratégique. Des sources sécuritaires rapportent que les deux parties ont échangé sur le mécanisme de la mise en place effective d'une opération conjointe entre les FARDC et les UPDF. Objectif, traquer tous les groupes armés actifs dans les territoires de Djougou et réfractaires au processus de paix. D'autres sources concordantes ajoutent que l'accent a été beaucoup mis sur les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga qui font la lutte armée dans la région déboulée. Des acteurs politiques et d'autres structures de la société civile de Djougou encourage cette démarche qui, selon eux, pourrait mettre fin à ce cycle infernal de violence dans cette entité meurtrie par des années de guerre. Bougnard, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Kasaï central, la cour d'appel de cette province a rendu son arrêt définitif dans l'affaire opposant le ministère public et les partis civils à David Ndaye Kalonda, alias Nsabanga et consorts. La décision a été prononcée lors de l'audience publique tenue mardi dernier. Trois prévenus étaient poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parmi lesquels le chef Nsabanga. Ces audiences foraines se sont déroulées à la prison centrale de Kananga avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de l'ONG Trial International et du Fonds pour la consolidation de la paix. Les détails avec André Katendenga Lamoulomé.
La cour a finalement rendu son verdict dans les procès Nsabanga et consorts. David Ndaye, connu sous le nom de Nsabanga, ainsi que son co-accusé Beya, ont été condamnés à la peine de mort pour crimes contre l'humanité, notamment meurtre, viol, esclavage sexuel, réduction en esclavage, torture et disparition forcée. En revanche, Tshiketa Mpiana a quitté le tribunal en homme libre. Les avocats de 210 victimes se disent satisfaits de cette décision. Pour Maître Samuel Ntamboué, la justice a enfin été rendue aux victimes.
On ne peut que pousser les petits coquelicots d'autosatisfaction pour l'arrêt qui concourt à l'idéal de lutter contre l'impunité et que les dommages et intérêts sont alloués au nombre de 210 victimes.
Du côté de la défense, le verdict est contesté. Les avocats des condamnés annoncent leur intention d'interjeter appel. Benjamin Kaboué est avocat de David Ndaye Nsabanga.
Nsabanga et M. Beya sont condamnés à la peine de mort, mais les deux prévenus
Arrêté en 2010, David Ndaye Nsabanga était considéré comme l'un des membres influents du mouvement insurrectionnel Kamuinan Sapu dans les territoires de Dibaya, un groupe accusé des graves violations des droits humains au Kasaï. Kananga, André Katendina Lamoulomé, Radio Kapi.
Au sud Kivu, l'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Shabunda est devenu un véritable défi. L'inaccessibilité routière en constitue la principale cause, aggravée par l'insécurité persistante sur l'axe Bukavu-Shabunda. Faute de prise en charge adéquate, certains patients nécessitant une intervention chirurgicale perdent la vie. Le médecin chef des zones de santé de Shabunda déplore la qualité des soins offerts par les structures médicales fortement limitées par l'absence des médicaments essentiels. Jean Kassami pour le reportage.
À Chabunda, les retombées du manque d'approvisionnement en médicaments sont palpables. Agnès Sadiki, femme leader du territoire, énumère 9 cas de décès en l'espace de 2 mois suite aux interventions chirurgicales bâclées. Parmi ces victimes, 5 femmes mortes par césarienne, faute du matériel approprié.
J'ai tellement du mal au cœur en apprenant le nombre de femmes qui sont mortes par césarienne au chef-lieu du territoire de Chabunda en voulant donner la vie. C'est inacceptable.
Les médecins chefs des zones de santé de Chabunda déplorent la qualité des soins suite au manque de médicaments essentiels. Docteur Kiatougou Guillaume.
Présentement à Chabunda, les médicaments, 1,5 bastère de sérum, nous les achetons à 20 000 francs congolais et à défaut à 25 000 francs congolais. Pour dire que les 1 litre, c'est à 50 000 francs congolais. Et toute une plaquette de paracétamol à 1000 francs congolais. On n'a pas de route, on n'a pas de gouvernement. Vraiment, le tableau est très sombre.
Un cas de décès a été enregistré au centre médical de Byakungu ce lundi 6 janvier et un autre à Nyaloubwe la semaine dernière. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Santé encore. Au Maniema, les cas de choléra persistent dans la zone de santé de Kindu. Selon les responsables de l'unité de traitement du choléra, une dizaine de cas ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année 2026, dont un décès chez un adulte. Les autorités sanitaires appellent la population à éviter la consommation d'eau impropre, en particulier celle du fleuve et des rivières non traitées, et à respecter des mesures d'hygiène afin de limiter la chaîne de contamination. L'unité des traitements du choléra de Kindu bénéficient encore d'un appui en médicaments de la division provinciale de la santé avec l'appui de l'OMS, ce qui permet d'assurer une prise en charge gratuite des patients. On écoute Ramazani Mayenge, directeur des nursing de l'hôpital général de référence de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, il y a la persistance de la maladie de choléra ou la diarrhée. Et ce qui est à la base, c'est les cas proviennent surtout de l'amont et de l'aval du fleuve. Ainsi, ces malades qui viennent ont des maisons ici et ils viennent aussi contaminer leurs familles qui sont ici et surtout qui sont au bord du fleuve. Il y a les cas qui nous viennent surtout des aires de santé, des Lombo-Lombo, des Kasuku 1 et Basoko. La population doit éviter de prendre surtout l'eau du fleuve Congo et prendre surtout l'eau aussi bien désinfectée puisque nous avons les sites de désinfection. C'est cette eau-là que la population doit prendre. Bon, les cas qui arrivent si tardivement, vraiment, ce sont des cas à risque et ils nous consomment beaucoup. Ceux qui restent avec les cas à la maison, dès qu'ils remarquent seulement les cas, c'est mieux de venir avant temps avec au centre de traitement de choléra. Ce n'est pas payable, nous disons que c'est gratuit. Le traitement est gratuit.
Province du Kwilu, plusieurs têtes d'érosion menacent la cité de Bulungu et ses principales voies d'accès. Dans le quartier Ilunga, des maisons ont déjà été emportées, tout comme certaines infrastructures scolaires, notamment l'Institut Muyombo. Placide Mokwa, vice-président de la société civile de Bulungu, tire la sonnette d'alarme et estime que la zone risque d'être isolée et coupée du reste du territoire national. Il appelle à cet effet le gouvernement, tant national que provincial, à engager des travaux d'urgence. Placide Mokwa est au micro de John Chibwabwa.
La cité de Bulungu, accessible par la RN18 entre Camp Bulungu et Bulungu, et la RN19 allant de Kikwit à Bulungu par Lusanga, est en voie d'être totalement isolée suite aux nombreuses têtes d'érosion qui rongent et la cité et les voies d'accès. Tenez, 10 têtes d'érosion menacent d'engloutir la cité de Bulungu si des travaux d'urgence ne sont pas entrepris par le gouvernement tant central que provincial. Cette situation s'observe également sur la RN18 Camp Bulungu où 2 têtes d'érosion menacent de couper cette route au niveau des villages Kipwanga et Kiyaka respectivement à 7 et 10 kilomètres de Bulungu.
Rendons-nous au Nord Kivu pour parler de cette bonne nouvelle. La famille des gorilles de montagne Bageni s'est agrandie avec la naissance de 2 nouveaux individus. La femelle Mafuko a mis au monde des jumeaux, un événement particulièrement rare chez cette sous-espèce classée en danger critique d'extinction selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Avec ces 2 naissances, la famille Bageni compte désormais 59 membres, ce qui en fait la plus grande famille du secteur Mikeno. Plus de détails avec Bernard Nyangi.
Selon le communiqué publié le mercredi 7 janvier 2026, ce sont les pisteurs communautaires chargés de surveiller l'état de santé des gorilles de montagne qui ont signalé cette découverte. Un suivi attentif a confirmé que les deux nouveaux-nés observés le 3 janvier sont des mâles et qu'ils se portaient bien au moment de l'observation. Mafuko, leur mère, est âgée de 22 ans. La direction du parc national de Virunga, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, parle d'un grand événement pour la conservation des gorilles et des montagnes, surtout dans un contexte marqué par l'insécurité persistante. En effet, le secteur Mikeno se trouve actuellement dans une zone de sous-occupation rebelle, rendant les opérations de surveillance particulièrement délicates. Les naissances gemellaires chez les gorilles et des montagnes sont extrêmement rares et présente d'importants défis pour la mère, surtout durant les premiers mois. Selon les estimations issues du dernier grand recensement réalisé vers 2018, la population mondiale de gorilles de montagne est d'environ 1100 individus. Dans le parc national de Virunga, le secteur Mikeno abritait environ 350 gorilles en 2021, selon les données de l'ICCN.
La presse congolaise est en deuil. Le journaliste Médard Mbuyal Mangal de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC est décédé ce mercredi à Kananga, dans la province du Kasaï Central. Selon les comptes X de la RTNC, il s'était rendu sur place pour assurer des enseignements à l'université du Kasaï. Que son âme repose en paix.
Actualité internationale.
Les électeurs béninois sont appelés aux urnes dimanche 11 janvier pour des élections législatives et locales. Elles se déroulent à la date prévue, un peu plus d'un mois après la tentative du coup d'État qui a secoué Cotonou. Les partis en lice terminent vendredi 9 janvier, deux semaines de campagne avant un double scrutin qui marque le coup d'envoi d'une année électorale dans le pays.
L'invité.
Un mois après l'entérinement à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au nord Kivu et au sud Kivu. Comment expliquer cette persistance des combats? Que faut-il également retenir des récentes interpellations visant certains opposants? Et que penser de l'initiative appelant à la tenue d'un dialogue national? Ces questions ont été abordées lors de l'entretien que nous a accordé le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Muyaya Katembwe répond aux questions de Guy Maté.
Bonjour Monsieur le ministre Patrick Muyaya.
Bonjour cher Guy Maté.
Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans le sud ainsi que le nord Kivu?
Écoutez, la situation, c'est que nos troupes sont toujours engagées dans les lignes pour la défense du territoire national. Vous savez que le Rwanda, malgré la signature de l'accord de Washington, preuve que la dynamique de la paix enclenchée par Washington ne les arrangeait pas, a repris la guerre, notamment avec les opérations qui ont conduit à la mort de 1500 personnes. Nous avons fait un communiqué la dernière semaine pour présenter les bilans de ces actions macabres. Ils n'ont jamais quitté Uvira, comme prévu. C'était donc une fausse déclaration, une mascarade du fils visant à protéger le père de la foudre américaine. Mais cela dit, nos forces restent mobilisées pour tenir les lignes et assurer la défense du territoire.
Justement, après cette occupation de la ville d'Uvira, 6 jours après l'entérinement, n'est-ce pas, de l'accord de Washington, est-ce que le gouvernement congolais continue à faire crédit, continue à croire, à faire confiance au processus de Doha et de Washington?
Évidemment que nous avons confiance au processus de Washington et de Doha. La preuve, le président de la République s'est lui-même déplacé à Washington et régulièrement nous avons des émissaires qui vont à Doha. Ceci dit, nous connaissons l'ennemi en face. Nous savons quelles sont les vraies intentions de l'ennemi parce que l'accord de Washington ou les accords de Washington, s'il faut les présenter tels qu'ils ont été signés, vous avez donc l'accord de paix qui a été signé par la ministre Kai Kwamba. Vous avez l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est la dimension économique qui doit venir formaliser ou apporter plus de transparence dans les activités économiques dans la région. Et puis, il y a l'accord de partenariat stratégique qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis. Spécifiquement, dans le cadre d'intégration économique régionale, il était prévu que, avant que nous puissions passer à l'économie, nous devons faire la paix. Une paix que nous voulons définitive et une paix que nous voulons durable. Et la voie de la paix, d'une paix durable, qui précède un mécanisme de transparence ou de cleaning n'arrange pas le président rwandais. Et donc, son attitude contre ce qui a été convenu à Washington en remettant les armes là où on avait apposé la signature pour la paix signifie que le seul langage qu'il peut comprendre, c'est le langage de la pression, c'est le langage de la force.
Monsieur le ministre, que signifient ces arrestations de certains opposants que l'on constate actuellement?
Écoutez, d'abord, il faut savoir que nous sommes dans un contexte, malheureusement, où des Congolais sont complices de ce qui nous agresse. Vous avez des supplétifs, ce sont des compatriotes qui ont choisi de tourner le dos à la patrie. Et donc, vous avez d'autres qui, malheureusement, dans leur plan de déstabilisation, dirais-je, ils ne sont pas que dans les parties sous occupation. Ils ont des tentacules, y compris à Kinshasa. Et donc, chaque fois que vous voyez une interpellation se faire, une interpellation ne s'est fait jamais au hasard. Ça s'est fait parce qu'il y a de bonnes raisons. Un opposant n'est jamais interpellé par hasard. Évidemment, je n'ai pas les secrets des raisons de ces interpellations, ou des motivations plutôt, je dirais mieux, de ces interpellations, mais il faut considérer que ceux qui sont de l'autre côté se disent aussi des opposants. Et nous connaissons la proximité des uns des autres. Et donc, lorsque il y a des besoins pour les services d'intelligence qui sont censés nous protéger tous, défouiner davantage auprès d'un citoyen, qui soit-il, il faut permettre aux services de faire leur part.
Monsieur le ministre, pourquoi le chef de l'État ne convoque toujours pas les dialogues tels que prônés par la CENCO ainsi que les CECI?
D'abord, il faut savoir que le dialogue que le président de la République convoquera, c'est les dialogues dont la feuille de route a été conjointement élaborée par SSC, CENCO et les confessions religieuses, notamment ceux qui sont dirigés par l'évêque Yeji Bayamapia, qui ont travaillé avec les services du président de la République pour préparer ces dialogues.
Donc il finira par convoquer ces dialogues.
Il faut considérer d'abord de un que le président de la République est un homme de paix. Il a toujours été attaché au dialogue et à aucun moment le président de la République a renoncé à cette idée des dialogues.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement qui répondait aux questions de Guy Maté. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parler de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Irong Moshinj et la mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.